Mardi 27 février 2018, les voies de service. Bonjour, bonjour à tous, je suis Louis Debert. Je suis confortablement installé dans ce studio, seul. Non, pas seul, il y a des gens de l'autre côté de la vitre pour m'aider, l'équipe est là bien sûr. Mais ce ne sera que ma voix que vous entendrez aujourd'hui pour toutes sortes de nouvelles. Et les nouvelles, les voici en quelques titres. Nous parlerons aujourd'hui de vol, du pouce d'un soldat volé, également d'un tableau volé. Ont-ils été retrouvés l'un et l'autre? On va voir ça. Également d'une pénurie de poulet frit, oui, ça peut arriver. Autre sujet de nourriture, une bataille de Nutella. Ça a lieu en Europe, ces deux événements. Également, pourquoi pas, de Snapchat, qui est bien mal en point en ce moment, ou du couple Trudeau qui anime l'actualité. C'est dans quelques instants dans les voies de service. Commençons donc, comme je vous l'annonçais, avec un des deux vols dont je vous parlais. Ça se passe du côté à la fois des États-Unis et de la Chine. Le pouce d'un soldat, mais rassurez-vous, un des soldats de la célèbre armée de terre cuite enterrée à Xi'an, dans le nord de la Chine, a été dérobé lors d'une exposition aux États-Unis et les autorités chinoises réclament, vous vous en doutez, que le voleur soit sévèrement puni. Selon des documents de la justice américaine consultés par l'AFP, un jeune homme de 24 ans a été arrêté pour le vol commis peu avant Noël lors d'une fête à l'Institut Franklin de Philadelphie, en Pennsylvanie, où étaient exposées 10 statues. D'après le rapport d'arrestation établi par un agent du FBI, le suspect, s'était introduit subrepticement dans la salle d'exposition fermée et avait pris un selfie avec le guerrier de terre cuite d'une valeur tout de même de 5,68 millions de dollars canadiens. Puis, il semble avoir cassé le pouce gauche de la statue avant de le mettre dans sa poche et de partir. Le musée a remarqué la disparition le 8 janvier seulement. L'agent du FBI a retrouvé l'auteur présumé à son domicile de Bear, dans le Delaware, où il a reconnu avoir rangé le pouce dans un tiroir. Arrêté pour le vol d'une œuvre d'art majeure dans un musée, recel d'œuvres d'art majeures et transport d'objets volés d'un état à l'autre, il a été libéré sous caution, mais une caution de 15 000 dollars. Les 8 000 guerriers en terre cuite mis au jour à Xi'an, dans le nord de la Chine, à partir de 1974, sont les gardiens de la tombe du premier empereur de Chine, Qin Shi Huang, mort en 210 avant notre ère, après avoir unifié le pays. Cette armée d'outre-tombe a été découverte donc en 1974. Des centaines de milliers de touristes visitent chaque année ce site, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, et situé dans la province de Shaanxi. Les Chinois y voient avant tout l'un des symboles de leur civilisation millénaire, au même titre que l'invention de la poudre ou du papier. Nous appelons la partie américaine à punir sévèrement la personne qui a commis un tel acte de vandalisme et de vol de l'héritage culturel de l'humanité, a déclaré dimanche au journal Beijing Youth Daily le directeur du centre culturel d'échange de reliques de la province de Shaanxi. Deux spécialistes vont être dépêchés aux États-Unis pour aider à la restauration de la statue, a-t-il ajouté, ajoutant qu'une procédure en dommages et intérêts avait également été lancée. Voilà pour la mauvaise idée du jour qu'il a eue il y a un ou deux mois. Et au milieu de ces deux pays, entre la Chine et les États-Unis, il vaut faire profil bas parfois. Autre vol, autre œuvre d'art, ça se passe cette fois-ci en France et il s'agit d'un tableau. Un Degas volé il y a 8 ans a été retrouvé dans un endroit un peu particulier. Des douaniers français ont retrouvé un tableau du peintre impressionniste Edgar Degas dans la soute à bagages d'un autobus plus de 8 ans après que l'œuvre eût été volée dans un musée de Marseille. Selon le ministère français de la Culture, des agents du poste frontalier de Marne-la-Vallée ont été surpris en découvrant une peinture signée Degas à l'intérieur d'une valise rangée dans la soute d'un autobus. Toujours d'après le ministère, aucun des passagers n'a réclamé la valise à la suite de la fouille qui s'est déroulée le 16 février. Des experts ont vérifié l'authenticité de la toile et confirmé qu'il s'agissait du tableau L'écoriste, qui représente une scène tirée de l'opéra Don Juan. La peinture avait été dérobée, tenez-vous bien, en 2009 dans un musée marseillais, à qui elle avait été prêtée par le musée d'Orsay à Paris. La ministre française de la Culture, Françoise Nyssen, s'est réjouie de cette heureuse redécouverte d'une œuvre précieuse appartenant aux collections nationales, dont la disparition représentait une lourde perte pour le patrimoine impressionniste français. Après la France, traversons la Manche, voyageons de pays en pays aujourd'hui, décidément, et au Royaume-Uni, donc c'est là que ça se passe. Le PFK qui bat de l'aile faute de poulet, je salue le titre de l'article, ça me plaît. Moins d'un tiers des restaurants PFK au Royaume-Uni demeuraient fermés mercredi après-midi en raison d'une pénurie de poulet due à des problèmes de livraison, qui a provoqué le désespoir de consommateurs accros au fast-food de volaille frite. Moins de 300 des quelques 900 restaurants Kentucky Fried Chicken, poulet frit du Kentucky, étaient toujours fermés, selon un nouveau décompte de PFK, touché par une crise d'approvisionnement depuis le week-end. En cause, des ennuis opérationnels rencontrés avec la société allemande DHL, son nouveau livreur. Chaque jour, de plus en plus de livraisons sont effectuées, a affirmé un porte-parole du géant américain de la restauration rapide. Cependant, nous nous attendons à ce que les perturbations dans certains restaurants perdurent jusqu'à la fin de la semaine, ce qui signifie que certains resteront fermés et que d'autres ne fonctionneront qu'avec une partie du menu et des heures d'ouverture réduites. KFC, PFK, a mis en place un site internet listant les établissements ouverts, tandis que le Daily Mail rapportait mercredi que d'importantes quantités de gallinacés non livrées et entreposées au dépôt de DHL allaient devoir être détruites. « Nous examinons toutes les options pour minimiser le gaspillage », a indiqué le porte-parole. PFK n'a pas pu préciser le coût pour le groupe de cette crise, qui a débuté avec le transfert du contrat de livraison du Sud-Africain Bidvest à DHL. Le porte-parole a seulement indiqué qu'il était significatif. Nous avons signé un contrat de livraison avec un nouveau partenaire, mais il rencontre quelques difficultés initiales. L'expédition de poulet frais dans 900 restaurants à travers le pays est assez complexe, a expliqué PFK. Nous savons que cela a pu déranger certains d'entre vous ces derniers jours et vous décevoir lorsque vous vouliez votre poulet frit, a ajouté la compagnie. Ce sevrage forcé semble en effet avoir été très mal vécu par certains consommateurs. « Je veux mon burrito !» s'exclame Karen Bryan en trouvant porte close devant le PFK de la gare Victoria à Londres, qui a finalement ouvert en fin de matinée. « Je vais aller chez McDonald's, ce n'est pas aussi bon !» regrette auprès de l'AFP, celle qui fréquente le fast-food à un rythme hebdomadaire. « C'est terrible, il devrait rectifier le tir !» dit une autre habituée, Jamie Pitcher. Le député travailliste Neil Coyle a dit avoir été contacté par des consommateurs déçus, tandis que les accros en manque ont conduit la police londonienne à tweeter. S'il vous plaît, ne nous contactez pas au sujet de la crise PFK, ce n'est pas un problème relevant de la police si votre restaurant préféré ne peut pas vous servir le menu que vous désirez. La situation a aussi déclenché une salve de moqueries sur les réseaux sociaux. Comment la nation va-t-elle s'en sortir, s'interrogent plusieurs tweetos. D'autres y ont flairé une opportunité, comme l'entreprise britannique Corn, qui propose sur Twitter de se tourner vers ses nuggets avec des substituts de viande. Le syndicat GMB a dit avoir prévenu la direction de PFK des conséquences d'un changement de livreur, motivé par la volonté de faire des économies. Cette décision a causé la perte de 255 emplois et la fermeture d'un dépôt de Bidvest, qui opérait depuis plusieurs centres de distribution au Royaume-Uni, alors que DHL tente maintenant de faire la même chose à partir d'un seul, a-t-il déploré dans un communiqué. Répondant à des informations de presse selon lesquelles DHL n'a pas de licence pour l'entreposage frigorifique, PFK a indiqué que l'entreprise était dans l'attente de son obtention, mais que les autorités sanitaires s'étaient déclarées satisfaites lors d'une visite du dépôt mardi. PFK a assuré que les salaires de ses employés seraient maintenus, tandis que ceux en contrat à durée déterminée seraient payés la moyenne journalière des heures travaillées au cours des 12 dernières semaines. L'enseigne a appelé les franchisés, la majorité des restaurants, à faire de même. Le directeur général des opérations de la vente de DHL, John Boulter, a assuré que sa société s'efforçait de retrouver le plus vite possible un service de livraison normal et qu'elle étudiait les raisons des problèmes de livraison. Une autre entreprise qui connaît quelques difficultés, qui va bien mal en ce moment, et pour une raison encore plus bête, il s'agit de Snapchat et de Twitter, puisque c'est un tweet qui a causé l'effondrement en bourse de Snapchat. Un tweet de Kylie Jenner coûte 1,3 milliard de dollars à Snapchat. La société mère de Snapchat a donc perdu cette somme à la suite d'un tweet de la star de la télé-réalité Kylie Jenner, disant qu'elle n'utilisait plus l'application gratuite de partage de photos et de vidéos. Est-ce que quelqu'un d'autre n'ouvre plus Snapchat ou c'est juste moi? C'est tellement triste, a-t-elle tweeté, avec son compte qui compte tout de même plus de 24,5 millions d'abonnés. Un peu plus tard, la demi-sœur de la non moins célèbre Kim Kardashian a tweeté « Je t'aime toujours, Snap, mon premier amour ». Eh bien, trop tard, les dégâts étaient déjà faits. Les actions de Snap incorporées ont chuté de plus de 6%, ce qui représente une perte d'environ 1,3 milliard de dollars en valeur boursière. Jenner est suivie par des millions de personnes sur Twitter comme sur Instagram. Elle a donné naissance, ce mois-ci, à une fille et l'annonce de sa grossesse, sur son compte Instagram, a été l'une des publications les plus likées depuis la création de ce réseau social, quand un empire s'effondre à coups de petits coups de doigts sur un écran. Dans ma catégorie habituelle qui revient régulièrement des petites questions existentielles de l'humanité, j'en ai quelques-unes à vous proposer aujourd'hui, dont celle-ci. Pourquoi a-t-on peur des araignées? Eh bien, c'est à cause de millions d'années d'évolution, durant lesquelles nos ancêtres ont dû porter une attention vigilante à ces bêtes à huit pattes, dont certaines étaient mortelles. Et le sont toujours. La peur des araignées serait donc dans nos gènes, et l'intensité de cette crainte varie d'une personne à l'autre. Selon des recherches publiées dans le journal Evolution and Human Behavior, notre centre visuel a conservé des mécanismes ancestraux consacrés entièrement à la détection de menaces immédiates et particulières, auxquelles nos ancêtres ont dû faire face dans un lointain passé. On a démontré que nos yeux reconnaissent plus rapidement l'image de créatures venimeuses, comme les araignées et les serpents, en envoyant un message d'alarme au cerveau. Ce réflexe persiste même si seulement 200 des 40 000 espèces d'araignées dans le monde représentent une menace sérieuse pour des adultes en santé de nos jours.
Souvenir me meurt, un temps sur un rêve. On vient d'entendre Charlotte Gainsbourg qui nous chantait Kate.
Vous en avez peut-être déjà entendu parler, eh bien je vais en remettre une petite couche. Partons en Inde pour parler de notre Premier ministre, Monsieur Trudeau. C'est tiré du Monde, publié il y a quelques jours, le 22 février. En Inde, Justin Trudeau raillé pour sa diplomatie de la mode. Lors de sa visite officielle, le Premier ministre canadien apparaît dans toutes les tenues traditionnelles possibles, mais rarement en compagnie de responsables politiques indiens. Sherwani sur le pantalon, churidar pour Justin Trudeau et ses fils, le sari ou le salwar carmèse pour Sophie Grégoire Trudeau et sa fille, le Premier ministre canadien est moqué sur les réseaux sociaux pour sa diplomatie de la mode en Inde. La séance photo de mode de Justin Trudeau interrompue par la visite officielle d'État, raille la journaliste canadienne Catherine Cates sur son compte Twitter. En visite officielle en Inde depuis bientôt une semaine, le Premier ministre canadien apparaît plus souvent avec sa famille habillée en vêtements traditionnels, en fonction de la région visitée, que photographié avec des responsables politiques indiens. Les images de la rencontre de la famille Trudeau en habit traditionnel avec la star de Bollywood Shah Rukh Khan, vêtu à l'occidental, lui, sont brocardées par des internautes canadiens. Cette photo résume parfaitement la visite d'État. La plus importante rencontre jusqu'ici est avec l'acteur Shah Rukh Khan. Ce serait comme si Poutine passait 7 jours aux États-Unis et rencontrait seulement Tom Cruise, écrit par exemple David Jacobs, médecin et membre d'un syndicat de docteurs. De son côté, certains autres internautes s'interrogent, vous vous en doutez. Vendredi, à la veille de reprendre l'avion pour Ottawa, Justin Trudeau devait rencontrer son homologue indien, Narendra Modi. Ce dernier, dans ce qui semble être un trait d'humour, a espéré jeudi sur son compte Twitter que le Premier ministre Justin Trudeau et sa famille ont passé un séjour très agréable jusqu'à présent. Est-ce que la diplomatie de la mode de Justin Trudeau fonctionne en Inde ? S'interroge le journal d'opinion indien The Print. Omar Abdullah, ancien chef de la province de Jammu et Cachemire, s'amuse sur son compte Twitter avec moult photos à l'appui de voir la famille Trudeau habillée par les plus grands couturiers indiens. Est-ce que c'est juste moi ou est-ce que cette gentillette chorégraphie est maintenant un peu trop ? Et pour votre information, nous, Indiens, ne nous habillons pas comme cela tous les jours, monsieur. Même pas à Bollywood. Les visites répétées de temples, le rouleau à pâtisserie en main pour faire le pain traditionnel, ou fouler le terrain de cricket, Justin Trudeau a usé des symboles pour sa visite officielle, sans réussir à éviter l'accroc diplomatique. Jeudi, le Premier ministre a dû s'expliquer sur l'annulation au tout dernier moment d'une invitation faite à un extrémiste sikh, Jaspal Atwal. Ce dernier, citoyen canadien et domicilié en Colombie-Britannique, a été impliqué dans une tentative d'assassinat en 1986 sur le sol canadien d'un responsable politique indien. Alors qu'il avait été condamné en première instance à 20 ans de prison, son jugement avait été infirmé en appel. L'homme a posé cette semaine auprès de l'épouse Justin Trudeau lors d'un événement à Bombay en marge de la visite officielle. Et la famille Trudeau toujours dans l'actualité avec une nouvelle un peu plus joyeuse qui leur donnera peut-être du baume au cœur en ce moment. Une éléphante nommée Sophie Grégoire Trudeau au Kenya. Sophie Grégoire Trudeau se retrouve aux côtés de grandes pointures ces jours-ci, notamment Michelle Obama et Martha Washington. Elle mange des fruits et l'écorce des arbres et passe la majeure partie de son temps à prendre soin de son enfant de 9 mois. Elle ne fait toutefois pas de yoga. Il ne s'agit pas, comme vous l'avez sans doute deviné, de l'épouse du Premier ministre Justin Trudeau. Il est plutôt question d'une éléphante, vivant dans le parc national Samburu au Kenya, à qui on a donné ce nom à saveur politique après la naissance de son premier enfant, dans le cadre d'une tradition de l'organisation Save the Elephants, de décerner des noms aux éléphantes dans le parc après qu'elles ont enfanté. George Whitmeyer, président du conseil scientifique de Save the Elephants, a indiqué que les animaux étaient nommés selon des thèmes de leurs unités familiales. Ainsi, Sophie Grégoire Trudeau fait partie du groupe des Premières Dames. Sa mère est Rosalind Carter, nommée en référence à l'épouse de Jimmy Carter. Elle a des cousines portant les noms de Michelle Obama et Mary Todd Lincoln. Martha Washington est la matriarche du groupe entier. Il s'agit de la première éléphante dans le troupeau à être nommée en référence à l'épouse d'un premier ministre du Canada. La décision a été prise en mai dernier, peu après la naissance du bébé, parce qu'une équipe de l'émission de The Nature of Things du réseau anglais de Radio-Canada se trouvait au Kenya pour tourner un documentaire sur le comportement matriarcal d'animaux comme les éléphants, les lions et les babouins. Puisque des Canadiens se trouvaient sur les lieux à ce moment, le nom de Sophie Grégoire Trudeau semblait un choix évident, a dit M. Whitmeyer. Le documentaire est diffusé en fin de semaine. M. Whitmeyer espère que toute attention que ces éléphantes pourraient susciter aidera à rappeler le fait que l'espèce continue de faire face à un risque important d'extinction. C'est une espèce incroyable, nous partageons la planète avec elle, et nous devons trouver les moyens de le faire, et retirer ses dents pour les mettre sur votre manteau n'est pas acceptable, a-t-il fait valoir. Le commerce de l'ivoire a entraîné la perte de la moitié de la population d'éléphants en Afrique dans les années 80, amenant les Nations Unies à interdire les ventes d'ivoire à l'international en 1990. Bien que l'impact ait été immédiatement positif, plusieurs pays ont tenté de faire lever l'interdiction sur leur territoire et d'autres pays ont poursuivi le commerce intérieur de l'ivoire, notamment le Canada. Le Canada ne l'interdira pas en raison du marché de l'ivoire pour les défenses de morse et de narval vendues par les Inuits. Néanmoins, il peut être difficile de faire la différence entre l'ivoire d'éléphant et l'ivoire d'autres animaux, facilitant le passage de produits illégaux dans le commerce licite. Le marché noir a perduré, la population mondiale d'éléphants a décliné de 62% entre 2002 et 2012, largement en raison du braconnage. La bonne nouvelle est que la Chine, jusqu'à tout récemment le principal marché pour l'ivoire, a interdit complètement les ventes d'ivoire depuis le 1er janvier. Tout de même, le braconnage continue. Selon certaines informations, 24 éléphants ont été tués au Mozambique en une seule semaine à la fin de décembre et le commerce de l'ivoire croît dans d'autres régions du monde, contrebalançant l'impact de l'interdiction en Chine. Sophie Grégoire Trudeau, l'être humain, a été mise au fait de la désignation de l'éléphant de l'an dernier. Elle n'était pas disponible pour une entrevue et n'avait pas de commentaire à faire. Posez sans doute la question tous les soirs, eh bien j'ai la réponse. Pourquoi y a-t-il une petite poche, une poche minuscule sur les jeans, sur vos pantalons? Eh bien c'est un héritage de la naissance du jean qui remonte aux années 1800. À l'époque, aux États-Unis, le tailleur Jacob Davis confectionnait des jeans pour ses clients fortunés qui avaient les moyens de se payer une montre de gousset, c'est-à-dire une montre de poche. Le tailleur a donc eu la bonne idée d'ajouter un gousset sur le jean afin que ses clients puissent y glisser leur montre. Et comme M. Davis a créé avec Levi Strauss les jeans Levi's, la pochette est restée l'emblème de la marque et toutes les autres ont suivi. « c'est le moment de prendre une petite pause musicale. Restez avec nous, c'est la deuxième partie de cette émission arrive juste après, avec encore plus d'articles intéressants, j'espère, et étonnants en tout cas. Restez avec nous, à tout de suite.
Yeah.
Hubert Lenoir nous chantait « Fille de personne ».
Il y a quelques décennies, Monsieur Tolkien nous donnait « La bataille pour la terre du milieu », livrait ce livre au monde, grand ouvrage s'il en est. Eh bien aujourd'hui, en 2018, les temps ont un peu changé. Nous en sommes à la bataille pour le Nutella en promotion. Rabais de 70% sur le Nutella, les clients se chamaillent, la justice réagit. Ça se passe en France. La justice française devait être saisie jeudi à la suite d'une promotion à moins 70% sur le Nutella qui a provoqué des empoignades dans des magasins Intermarché accusés de revente à perte. Nos agents ont conclu au fait qu'Intermarché n'a pas respecté les dispositions en vigueur concernant la revente à perte, ce qui relève d'une infraction pénale, a déclaré à l'AFP une porte-parole du service de répression des fraudes, confirmant une information de la radio RTL. Elle a précisé qu'un procès-verbal devait être remis à la justice jeudi. Il appartient maintenant à la justice de donner les suites nécessaires à ce manquement présumé, a ajouté la porte-parole, précisant que la revente à perte est passible d'une amende maximum de 375 000 euros, soit environ 600 000 dollars canadiens, pour une personne morale. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait annoncé fin janvier l'ouverture d'une enquête suite à des promotions de moins 70% proposées par Intermarché, notamment sur la pâte à tartiner Nutella, produite par l'Italien Ferrero et qui s'est désolidarisé de cette opération. Dans plusieurs magasins, des scènes de bousculade et même de bagarres avaient eu lieu. Des vidéos de clients se ruant sur les pots de la célèbre pâte à tartiner à la noisette faisaient le tour des réseaux sociaux. Revenons un peu ici en Amérique du Nord, du côté des États-Unis, où un de mes principaux fournisseurs d'articles sévit, alors la personne de Monsieur Donald Trump, que je remercie vraiment de nourrir ma chronique comme ça. Je vous entends, Donald Trump trahi par son anti-sèche. Voilà le titre de cet article du Monde. Les photographes ont immortalisé le président américain tenant une note dont le contenu illustre son manque d'empathie envers les victimes de fusillades. Si le moment n'était empreint d'une intense émotion, il serait comique. Une semaine après la fusillade de Parkland en Floride, qui a fait 17 morts, le président américain Donald Trump, dont la campagne a reçu d'importantes subventions de la puissante NRA, la National Rifle Association, principal lobby en faveur du port d'armes aux États-Unis, avait organisé mercredi 21 février à la Maison-Blanche une réunion d'écoute avec des parents, des élèves et des enseignants, témoins et victimes des fusillades de Parkland et de Sandy Hook en 2012 dans le Connecticut. Le président a surtout écouté et fait quelques vagues propositions, promettant de faire vérifier les antécédents judiciaires et psychiatriques des acheteurs d'armes ou d'armer une partie du corps enseignant. Autant que ces généralités, ce sont les éléments de langage destinés à Donald Trump notés sur une petite fiche qui ont accaparé une partie de l'attention. Plusieurs photographes, dont Caroline Caster de l'agence AP, ont immortalisé les mains du président tenant une note sur laquelle apparaissent 5 points, dont 4 sont lisibles. Les voici. Que voulez-vous que je retienne en priorité de ce que vous avez vécu? Que peut-on faire pour que vous vous sentiez en sécurité? Des ressources? Des idées? Et je vous entends. CNN révèle que le président ne s'est visiblement pas servi de ces éléments de langage ni d'un prompteur prenant un ton et prenant dans ses interventions. Pour le Washington Post, cette note reflète son manque cruel d'empathie. Son comportement à l'égard des victimes lui avait déjà été reproché après le passage de l'ouragan Harvey au Texas fin août 2017, puis lorsqu'il s'en était pris à la mer de San Juan à Puerto Rico après le passage de l'ouragan Maria en octobre 2017. Après la fusillade de Parkland, il s'est essentiellement intéressé aux forces de l'ordre et aux médecins avant d'aller jouer au golf alors que les familles enterraient les victimes. Sur les réseaux sociaux, les opposants au président s'en sont donnés à cœur joie, relève The Hill, qui reprend certaines réactions. Un certain Dart imagine l'entourage du président lui rappelant de bien se rappeler du point numéro 5, celui qui consiste à dire « je vous entends ». Le groupe de rock The Mountain Goats constate que le président a besoin d'une note lui rappelant qu'il faut écouter les victimes. Désabusé, un autre internaute écrit « Si on a besoin de vous dire qu'il vous faut montrer de l'empathie envers des enfants qui ont vu leurs camarades se faire assassiner, c'est que vous êtes vraiment l'incarnation du mal. » La note de Donald Trump fait aussi songer au livre de Michael Wolff, Le feu de la fureur, Trump à la Maison Blanche, dont l'édition paraît ce jeudi 22 février, la semaine passée donc, en France, qui dépeint un président incapable de se concentrer et sujet aux pertes de mémoire. Voilà pour M. Trump qui anime une fois de plus l'actualité par ses manquements, dirons-nous. Une autre petite nouvelle au sujet du président américain. Après ça, promis, nous passerons à d'autres choses. Donald Trump a reconnu publiquement qu'il dissimulait sa calvitie, une admission rare pour le président américain dont la chevelure suscite une multitude de commentaires. « Je fais l'impossible pour masquer ma calvitie, les amis. J'y travaille dur », a-t-il plaisanté lors d'un discours devant une organisation conservatrice près de Washington. « C'est pas mal, hein, on tient le coup », a ajouté M. Trump avant de faire une pirouette sous les applaudissements de l'assistance. La chevelure incongrue de Donald Trump suscite depuis longtemps les commentaires, notamment en raison de ses balayages aux teintes changeantes, tirant parfois vers l'orangé. Selon des coiffeurs interrogés par l'AFP, le président cache sa calvitie grâce à un savant montage de mèches rabattues maintenues par un produit fixant. Allons du côté de l'Irlande et même des étoiles. Vous devez résoudre ce problème. Une Irlandaise de 6 ans interpelle la NASA sur le statut de Pluton. Malgré son jeune âge, Cara Lucy O'Connor, qui souhaite devenir astronaute, aimerait que Pluton ne soit plus considéré comme une planète naine. À 6 ans, Cara Lucy O'Connor sait déjà ce qu'elle veut faire quand elle sera grande. Astronaute. Mais la jeune Irlandaise a un problème avec la NASA, la célèbre agence spatiale américaine, et elle le lui fait savoir. Il y a quelques mois, attristée d'apprendre que Pluton n'était plus considéré comme une planète, mais seulement comme une planète naine, elle a écrit une lettre à la NASA. Avec l'aide de sa maîtresse, elle a ainsi contesté cette décision prise en 2006 par l'Union Astronomique Internationale. J'ai écouté une chanson et à la fin de celle-ci, la chanson a dit « Ramener Pluton ». « Et j'aimerais vraiment que cela arrive », a-t-elle fait savoir dans ce texte rapporté par le Washington Post. J'ai aussi écouté quelques chansons sur Pluton et dans l'une des vidéos, les gens étaient habillés en différentes planètes et Pluton a été mis dans la poubelle et a été effrayé par la planète Terre. C'était vraiment méchant parce que personne ou aucune planète ou planète naine ne devrait être mise à la poubelle. Mais la jeune fille mentionne également des données scientifiques précises pour étayer ses arguments. Notamment sur la ceinture de Kuiper, un anneau où plusieurs planètes naines sont recensées, dont Pluton. Dans sa lettre, Cara Lucy O'Connor annonce également à la NASA qu'elle souhaite plus tard travailler pour l'agence, mais en attendant, je cite, « Vous devez résoudre ce problème pour moi », écrit-elle. En quelques mois, et quelques mois plus tard, la NASA a décidé de répondre à l'injonction de la jeune Irlandaise, comme le rapporte l'Irish Times. Cette correspondance a été publiée par le magazine mensuel Astronomy Island avant d'être prise ces derniers jours par le Washington Post ou l'Irish Times. La petite fille est donc célèbre. C'est Carly Howett, une scientifique qui travaille pour la mission New Horizons de la NASA, qui a eu la lourde tâche de lui répondre. « Je pense que Pluton est très importante, mais elle se moque probablement de savoir comment l'appellent les gens stupides sur Terre », fait-elle remarquer à la petite Irlandaise. La jeune fille a également reçu une réponse de James Green, directeur de la division scientifique des planètes pour l'agence spatiale américaine. « Je suis d'accord avec toi », écrit-il. « Pluton est vraiment cool. Mais pour moi, la question n'est pas vraiment de savoir si Pluton est une planète naine ou non. C'est un endroit fascinant que nous devons continuer à étudier, et c'est cela le plus important. Mais Kara Lucy O'Connor voit déjà plus loin que la planète Pluton. Dans sa lettre, elle annonce ainsi qu'elle souhaite découvrir sa propre planète, et elle l'appellera Licorne. Donc carrière à suivre pour cette petite Irlandaise qui n'a pas froid aux yeux.
On vient d'entendre Mélissa Lavaux qui nous chantait Angelico.
Qui a dit que les hommes politiques ne faisaient jamais rien, ne prenaient pas de mesures concrètes? Oh, j'en ai un contre-exemple, un magnifique contre-exemple. Le maire de Challans, c'est en France, veut obliger le soleil à briller et interdire à la pluie de tomber. Ça se passe du côté de Challans, donc en Vendée. Le maire a pris un arrêté municipal portant, je cite, « obligation d'ensoleillement toute la journée du lundi au dimanche et de pluie trois nuits par semaine ». Le petit prince disait « Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil ». En Vendée, le maire de Challans, Serge Rondeau, lui, s'adresse carrément au soleil. Considérant l'évidente dépendance du moral des Chalandais et de tout le monde dans, sur la planète Terre, en fait, au taux d'ensoleillement, il oblige le soleil à se présenter tous les matins du lundi au dimanche dans la ville de Challans et par extension à tous les départements de la Vendée. Quant à la pluie, qui s'est suffisamment invitée en journée ces derniers mois, elle n'est autorisée qu'à tomber 3 nuits par semaine. Pas une de plus. Jusqu'à juste ce qu'il faut pour maintenir le niveau d'eau de la nappe phréatique. Cette incantation est partie d'une boutade en interne mercredi 14 février, nous rapporte le service de communication de la mairie. Monsieur Rondeau a plaisanté en lançant une demande express à une collaboratrice « Faites-moi donc un arrêté pour faire revenir le soleil ». L'agente municipale a rédigé l'arrêté et le maire l'a signé parce qu'il a beaucoup d'humour, nous fait savoir sa collègue de la communication. Vous savez, il est très proche de ses administrés et très apprécié des citoyens. Sa devise, c'est « travailler sans se prendre au sérieux », c'est vous dire. Bon, on ne s'attendait pas à ce que cela parte aussi vite, c'est vrai. Depuis ce matin, il y a la Belgique qui nous appelle, la télé, vous et puis les gens des réseaux sociaux, ceux qui sont contents et les autres, comme d'habitude. La mairie se félicite de la bonne et due forme de cet arrêté improbable qui a tout l'air d'un vrai, posté sur son compte Twitter. Interdire à la pluie de tomber et obliger le soleil à briller, il est peu probable que la préfecture rende cet arrêté exécutoire, mais à la mairie de Challans, on confie que l'édile n'en demandait pas tant. Il sait bien qu'il n'a aucun pouvoir sur la météo, mais quand même, aujourd'hui, voyez comme il fait beau. On peut dire que Serge Rondeau fait un peu la pluie et le beau temps en Vendée. Et quand il pleut des cordes à un endroit où il fait bon être, eh bien c'est le métro puisqu'on y est abrité. Je vous partage cet article tiré du Monde qui s'intitule « Ode au métro et hymne à l'amour ». Dans le métro, des voyageurs peuvent se transformer en vagabonds, l'âme en extase. Le site croisedanslemétro.com rassemble petites annonces et courriers du cœur d'usagers. Dans le métro, il y a des gens. Des gens qui filent, qui poussent et qui s'entassent, qui puent parfois, qui pissent, qui reniflent, qui embrouillent. Il y a ceux qui ne calculent pas ce qui se passe autour d'eux. Des âmes perdues et d'autres qui portent une armure. Il y a des mecs bizarres, des prédateurs et des agresseurs. Il y a des patrouilles, heureusement, qui repèrent les pervers et chassent les frotteurs qui ne sont pas des non-événements mais bien sujets à traumatisme. Dans le métro, on peut tomber sur la colère, l'indifférence, la misère, le temps qui passe, le quotidien qui oppresse, le rendez-vous qui presse. De la musique ou des râles, du silence et du rien, et puis on peut tomber amoureux. Dans le métro, on croise la vie, et sur le site croisedanslemétro.com, le courrier du cœur du métro, ceux qui ont croisé l'amour, ceux qui veulent rétablir le contact, aider un peu le destin, ceux qui regardent, qui se regardent. Sans même que l'on s'en aperçoive, le métro est aussi théâtre de rencontres. Dans les rames, sur les quais, dans les couloirs, les moments de grâce se jouent, des frémissements nerveux courent le long des doigts, au bord des cœurs, et se retrouvent entre les lignes de ces petites annonces. On peut bien rire des petites annonces qui s'essoufflent. On s'étonne bien du succès des annonces matrimoniales du chasseur français, grâce auxquelles des célibataires espèrent trouver l'amour depuis près d'un siècle. Quant au compte Twitter de Croisés dans le métro, les dernières actus remontent à 2013, et pourtant... Les dernières annonces sur le site, elles, sont bien là. À la minute où nous écrivons, où nous parlons, à la minute où vous lirez, de nouvelles petites annonces seront publiées. Croisées dans le bus, le tramway, le RER ou le métro, à Bruxelles, à Lille, à Lyon, à Marseille, à Montréal, à Rennes, à Toulouse ou Paris, les voyageurs s'envoient des morceaux de poésie dans l'espoir de vérifier si le hasard fait des miracles. L'ambition du site est humble, née d'un constat finalement assez simple. Chaque jour, il y a des millions de passagers dans les transports en commun des grandes villes. Cela fait beaucoup de personnes qui se croisent sans se voir. Nous souhaitons faciliter les rencontres de ces gens. Le courrier du cœur du métro à Paris, c'est tous les jours et toutes les heures. Sur toutes les lignes, anthologie. Beau jeune homme en doudoune et veste grise, caterpillar noir aux pieds. Nous avons échangé des regards et des sourires, mais tu es sorti trop tôt à Bercy. Inégalité d'Atkinson à la main... pour que je puisse te donner mon numéro, déception de Saint-Valentin. Tu avais un thermos rouge, écrit un autre, et nos directions n'étaient pas les mêmes. Qu'aurais-tu fait si j'avais décidé de descendre de ma ligne ? Un autre encore écrit. Tu es monté vers 18h45 à Notre-Dame-de-Lorette ou Trinité, je ne sais plus. Ce que je sais, c'est que tes yeux clairs, un peu perdus et tristes, m'ont tout de suite attiré. Poussé par ceux qui rentraient dans le wagon, tu t'es adossé à côté de moi contre les portes et est resté alors qu'un... qu'un peu après de la place s'était dégagée devant nous. Tu es sorti à Saint-Lazare assez lentement pour que je te suive, ce que je regrette de ne pas avoir fait. Les gens les plus forts chez les hommes par un homme pour une femme. Certains ne font rien, ils parlent encore. Je serais intéressé de connaître la suite. Je vous retrouve presque tous les jours vers 17h25. Vous montez avec moi à Saint-Lazare. Moi, je descends à Montparnasse, mais vous allez plus loin. Et chaque jour, il me manque ce grain de folie pour engager une conversation. J'aimerais que les grands brins timides soient votre genre, car vous n'êtes pas du mien, et malgré ça, vous me plaisez beaucoup. En fait, j'ai même l'impression de vous connaître, mais comme c'est un peu ridicule, je n'oserais pas vous le dire. J'espère que vous remarquerez un jour, je suis la barbe courte aux yeux clairs qui s'arrange assez bien la plupart du temps pour vous admirer secrètement. Je monte à Réaumur-Sébastopol et tu es en face appuyé contre la porte, blond, bouclé, un visage d'une parfaite régularité, un sac de voyage entre tes pieds. Un autre encore. Je te regarde dans les yeux en entrant et je me faufile à ta droite où d'abord je m'applique à t'ignorer. À ce moment-là, mes écouteurs me passent la grenade et j'en dessine les mots sur mes lèvres. Je perçois quand même que tu souris, tu as l'air heureux. J'approche de ma station et je sens que tu vas toi-même descendre, alors j'ose fixer ton reflet au lieu du mien. J'ai pourtant l'habitude de voir des gens beaux. Qu'est-ce que tu as de spécial pour avoir provoqué cette émotion à moi ? Un autre encore. Gare du Nord, je comprends alors que tu n'es probablement pas parisien et tout espoir de te recroiser s'évanouit. En sortant, tu avances sur le quai puis te retournes brièvement vers la rame, mais je ne crois pas que nos regards se soient croisés. J'ai aimé ce moment, ce trouble, ce doute. Alors, merci. Une autre question existentielle. Les poissons rouges ont-ils une mémoire ? La science nous apprend que la mémoire du poisson rouge est bien plus profonde qu'on ne le croyait. Ces populaires petits poissons d'aquarium sont capables de retenir une information de 3 à 5 mois. Et ils peuvent même faire la distinction entre les humains qui s'occupent d'eux au quotidien et les étrangers. Afin d'en savoir plus sur la mémoire de leur sujet, des chercheurs ont fait jouer un son en particulier lorsque venait le moment de nourrir un groupe de poissons rouges. Au bout d'un mois d'entraînement, les poissons ont été relâchés à la mer. En entendant le fameux son, ils revenaient sur les lieux de l'expérience afin d'y recevoir la nourriture livrée par les chercheurs. Voilà une expression qui n'a plus lieu d'être. Et c'est déjà la fin de cette émission qui est passée à toute vitesse. J'espère que vous avez été intrigués et intéressés. C'est la fin donc, oui, je le disais, de cette émission. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Le temps pour moi de remercier Maurice Bolduc de l'autre côté de la vide pour la mise en onde et les choix musicaux. Tout de suite après, retrouvez Hélène Denis qui anime le quotidien des quotidiens. Je vous souhaite une excellente semaine. C'était Louis de Bernis. À mardi prochain.